am.
Willet. En direct.
On est comme dans le tombeau, là.
Avec JC et Patricia.
Radio X.
On va faire notre petite saucette hebdomadaire vers la géopolitique internationale. Et Dieu sait qu'il se passe beaucoup de choses. Et en plus, on a un président au sud, M. Trump, qui nous donne beaucoup, beaucoup, beaucoup de stock. Ça, on pourra, en tout cas, personne ne pourra dire après le mandat qu'il n'a pas brassé d'affaires.
Ça va être tranquille après son mandat, là.
Des fois, ben oui, hein. Peu importe qui va suivre, on va le trouver boring.
Ah oui.
C'est ça.
Ah oui.
Même J.D. Vance, d'après moi, on va dire, voyons, comment ça qu'il pète pas des coches, lui? C'est... On va aller jaser avec notre analyste en géopolitique, directement du média international francophone indépendant, 7 jours sur Terre, trouvez-le sur YouTube. Benjamin Tremblay, mesdames, messieurs, comment ça va, mon ami?
Ça va très bien, merci de me recevoir, JC.
C'est toujours un grand plaisir écoute, je te le dis de même, mais j'abuse de tes connaissances et de ton analyse. C'est un grand plaisir. On va commencer par le commencement. Hier, Donald Trump, pas hier, avant hier, à l'ONU, Donald Trump a livré un discours. Il y a eu des rencontres et soudainement... Écoute, c'est ce qu'on appelle, là, c'est la pure définition d'un virage à 180 degrés. On est parti de « you don't have the cards » à « je pense que l'Ukraine va gagner et qu'elle peut même retrouver ses territoires ». Puis même « and beyond », là, t'sais, on est même quasiment rendu à dire que l'Ukraine pourrait envahir une partie de la Russie. Tigre de papier, Poutine est faible, l'économie n'est pas bonne. Que dire de tout ça, Benjamin?
Honnêtement, je t'avoue que j'ai de la misère à le comprendre dans le contexte, surtout avec l'Ukraine. Si on le regarde plus largement, là, puis qu'on regarde les autres négociations Trump, notamment avec le Canada, avec ce qu'il est en train de faire avec le Venezuela actuellement, qui est beaucoup de la gesticulation, tu sais, on voit le pattern qui est d'élargir toujours la fenêtre de négociation aussi large que possible. L'Ukraine, c'était vraiment l'exception à la règle là-dessus, où Trump avait été un peu, c'était un peu commis, tu sais, à une fin de guerre rapide,
ouais,
sans vraiment proposer d'alternatives sérieuses. Puis ça devenait un peu le mauvais bluff de Trump. Là, pendant longtemps, il nous avait parlé, ah, vous allez voir, la Russie, si jamais ça, ils veulent pas négocier de bonne foi, si jamais Poutine veut pas s'asseoir avec moi, ben on va avoir une réponse conséquente à ça, puis on va mettre des sanctions à la, ouais, Russie. Et là, c'est là que ça a commencé à s'effondrer un peu. Parce que, écoute, en toi et moi, le livre des sanctions appliquées sur la Russie, on est pas mal rendu à la dernière page depuis un an et demi.
Ah oui, ben oui.
On a passé à travers de tout ce qui était possible. Tout le monde, tous les oligarques sont sanctionnés. On a saisi beaucoup d'avoirs. Il y a encore beaucoup d'argent dans les banques qui sont gelés, des fonds qui sont gelés. Donc là-dessus, la menace de Trump qui était de dire, ben fais la paix, sinon, dans le fond, rien.
Ouais.
C'était le seul cas dans lequel Trump n'avait pas ouvert la fenêtre de négociation. Fait quand tu regardes individuellement ce dossier ukrainien, tu te dis, mais voyons donc, Trump est en train de changer complètement de position. Moi, je t'avoue qu'en raison de la manière qu'il négocie typiquement, j'ai plus l'impression qu'il est en train justement d'élargir sa fenêtre, de dire, regarde, soit tu fais la paix, soit nous autres, on est prêts là, à soutenir l'Ukraine aussi longtemps que nécessaire.
Ouais.
Puis, ben, pour appuyer cette déclaration-là qui... S'il nous avait dit ça, tout simplement, là, je vais appuyer l'Ukraine, puis peu importe combien de temps, ça n'aurait aucun sens. Là, les gens discuteraient son rationnel stratégique, parce qu'on dirait, écoute, depuis un moment, tu nous dis que l'Ukraine ne peut plus gagner, que justement, ils n'ont pas les cartes. Fait qu'il n'y a comme pas le choix d'accoter ça avec, ouais, un constat stratégique sur ce qui se passe sur le terrain. De dire, ça va pas bien pour la Russie, je crois maintenant, devant de la nouvelle information, que l'Ukraine sera en mesure de se battre jusqu'au bout et de reprendre son territoire. Tu sais, il n'y a rien de crédible là-dedans.
Il l'a mentionné aussi.
C'est en train de faire.
Ben c'est parce qu'il a mentionné aussi, et on va fournir des armes, il n'a pas dit illimité,
ouais,
mais on va fournir des armes à l'OTAN, puis savez-vous quoi, ils feront bien ce qu'ils veulent avec, ça ne nous dérange plus.
Ben exactement, exactement. Puis là, c'est ce que, bon, beaucoup de gens sont en train de dire, il est en train de se laver les mains de tout ça, dans le fond.
Oui, parce qu'il a fini en bonne chance à tous.
Ben c'est ça, en disant, gars, il arrivera ce qui arrivera, ce que je te dis, puis nous autres, on sort un peu du processus de négociation. Puis il faut dire que ça fait longtemps là, que les Américains ont suggéré ça. Tu avais Marco Rubio, dès le début là, du processus de négociation, que ça commençait à s'effondrer, qui disait, gars, on a d'autres choses à faire. Si jamais ça va nulle part, ben on va passer au prochain dossier, puis arrivera ce qui arrivera avec l'Ukraine. Puis il est déjà en train de mitiger, de réduire les attentes, si on veut. Dire, regarde, ça se peut que ça se passe pas bien, nos négociations. Là, maintenant, j'ai de la misère à croire que Trump a vraiment l'intention d'échouer aussi dramatiquement sur ce dossier-là. Parce que, tu sais, si on est sérieux, c'est pas vrai ce qu'il dit, là. C'est pas vrai que l'Ukraine pourrait récupérer l'entièreté de son territoire, pas dans l'état actuel des choses. Écoute, l'âge moyen de l'infantryman, de l'infanterie sur le terrain actuellement en Ukraine, c'est quelque chose comme 45 ans, là.
Wow.
On a affaire à une Ukraine qui est vraiment au bout de ses ressources. On n'a plus du tout la capacité de continuer cette guerre-là à perpétuité, que ce soit même au niveau du moral, autant qu'au niveau des ressources. Fait que là-dessus, le constat de Trump n'est tout simplement pas réaliste.
Ah, ouais.
Je pense que c'est plus une tentative de montrer à Poutine que la négociation peut aller des deux bords, là, que Trump ne va pas juste se laisser manger la laine sur le dos d'une certaine manière.
Okay.
Mais ce n'est pas particulièrement crédible. Je tiens juste à nuancer tout ça.
Effectivement, je pense que ta lecture est très juste. L'Ukraine, on ne sent pas qu'il commence à peser sur le gaz. On sent plus qu'il manque de gaz, à moins que... Puis là, je t'envoie dans une fiction, puis on jase pour jaser, là. À moins que l'OTAN s'investisse davantage. À moins qu'on décide vraiment de faire ce qu'avait menacé de faire le président Macron, c'est-à-dire amener des boots on the ground, puis de vraiment pousser militairement pour que ça fonctionne. Mais là,
exact.
On tombe ailleurs. Là, on tombe dans un conflit à la limite mondiale.
Ouais, exactement. Puis, tu sais, soyons sérieux, il y a quand même beaucoup de... Il y a des chances très réalistes là, au point où on en est à partir du moment où Trump change son fusil d'épaule de la sorte puis qu'il nous dit qu'il est prêt d'aller jusqu'au bout. Il y a beaucoup de gens en Europe là, qui veulent ça, là, qui veulent justement un déploiement très sérieux de la part de l'OTAN, que ce soit les Polonais, que ce soit les Français. Il y en a beaucoup qui modèrent tout ça, mais il y en a qui sont tout à fait ouverts à la question et qui militent ouvertement en faveur de ça. On pense notamment aux pays baltes, là, notamment les Estoniens avec ces interceptions. Fait que, devant tout ça, on pourrait se dire que Trump a vraiment une porte grande ouverte vers une escalade en Ukraine. Là-dessus, moi, il faut nuancer aussi en disant on a beaucoup de leviers activés qui ne l'ont pas encore été. Écoute, les fameux F-16 qu'on a envoyés en Ukraine, ça a pris une éternité. On les a fait tomber au compte-gouttes. Même chose pour beaucoup des munitions qu'on leur livre. Il y aurait beaucoup, beaucoup, disons, d'escalade qui serait possible, là, ne serait-ce qu'au niveau de l'approvisionnement puis du soutien logistique. Ensuite, au niveau des autorisations, là, ce qu'on permet, il y a encore beaucoup de frappes en Ukraine, là, que ça doit passer essentiellement par la chaîne de commandement américaine et celle de l'OTAN, où c'est nous qui donnons les données de guidage, c'est nous qui donnons les données de ciblage, c'est nous qui va les informer quand il y a des mouvements de troupes. Faites attention, les Russes s'en viennent. C'est à partir de tout ça là, où on a une capacité d'escalader notre appui puis de commencer à diriger des attaques toujours plus impressionnantes. Là, tu vois, au cours des derniers jours, justement, les Ukrainiens qui se mettent à viser ouvertement l'aviation russe avec beaucoup plus de précision et qui envoient leurs propres frappes à longue distance, des frappes de précision avec des drones, écoute, qui coûtent à peu près rien. Et là, on continue à détruire des énormes avions cargo russes qui sont flanqués un peu partout à travers la Russie. Fait que manifestement, tu sais, ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas le droit de faire en Ukraine, là, il y a à peu près un an et demi. Avant Trump, l'administration Biden ne permettait pas de frapper à moins que ce soit directement une frappe défensive là, de quelque chose qui attaquait l'Ukraine. Trump a déjà relaxé beaucoup, beaucoup ces standards-là, à dire essentiellement, oui, tu peux frapper tout ce qui a une valeur stratégique tant qu'on te donne le feu vert, puis tu sais, que ça n'escalade pas le conflit, puis que ça ne nous amène pas trop proche de la Russie. Maintenant, à partir du moment où Trump décide, gars, on n'est plus inquiet, tu fais ce que tu veux, on va te donner les armes que tu veux. Juste ça, ça peut avoir un impact considérable, short de déployer 100 000 soldats américains.
Oui, puis là, je te ramène sur... T'es passé vite, là, mais je veux absolument qu'on reparle des incursions dans les pays baltes, les pays de l'Europe de l'Est, parce que là, le dernier en liste, c'est le Danemark. Pour le Danemark, on nous dit, gardez-vous un petit astérisque. On n'est pas certain là, que c'est russe, mais en même temps, ça arrive au même moment où il y a eu des incursions de drones et même d'avions militaires en Pologne, en Roumanie, tu l'as mentionné, en Estonie. Là, mettons, je te donne deux choix. Mon petit côté complotiste me dit, on est-tu en train de s'inventer une raison pour faire jumper l'OTAN dans le tas ou c'est Poutine qui teste la ligne?
Tout indique que c'est la première option là-dessus. Si tu regardes les trajectoires des vols russes, il n'y a pas vraiment de... Tu sais, notre premier incident, notamment, on va les prendre à part. Là. Si on y va, par exemple, avec celui sur la Pologne, les fameux drones qui étaient tombés. Encore aujourd'hui, les indications qu'on a, c'est que c'était probablement une erreur. Des drones qui sont tout simplement déviés de leur trajectoire, qui ont survolé un peu trop longtemps à cause d'un acte de guerre électronique. Donc, les Ukrainiens qui auraient jamais brouillé les drones en question. Ça, c'est compréhensible. Ensuite, on s'en vient sur la question de l'Estonie. Où là, si vous regardez une carte, vous voyez à peu près là, des avions russes qui partent depuis la Russie continentale, qui s'en vont au-dessus du golfe de Finlande vers Kaliningrad,
l'enclave
russe.
Ouais, l'enclave.
Exactement. C'est presque impossible. Écoute, c'est tout petit comme corridor aérien. Les Russes sont habitués de voler dans ce corridor-là. Ils sont très conscients de les conséquences si jamais ils frôleraient l'espace aérien de l'un ou l'autre. Puis ensuite, on a eu des informations additionnelles un peu curieuses quand on a su que les avions russes avaient ignoré des signaux de l'OTAN qui les avaient appelés à sortir de l'espace aérien, donc à collaborer. Des avions de l'OTAN qui auraient approché les avions russes, qui leur ont fait des signaux, un peu comme si tu dépassais quelqu'un sur l'autoroute puis que tu essaies de faire signe. Puis les Russes n'ont pas répondu, n'ont pas acknowledge rien que la présence des avions de l'OTAN. Et donc là, on se dit, c'est difficile à croire qu'eux, dans leur scénario, ils étaient dans une incursion. Si c'était une erreur, écoute, ils auraient réagi. Là, la théorie, c'est que peut-être c'était des ordres à partir du Kremlin de dire « vas-y, puis passe dans leur espace aérien, puis peu importe ce qu'ils font, fais rien ». J'ai de la misère à croire ça, comme je te l'ai dit, parce qu'on a des conséquences vraiment démesurées qui ne vont pas à l'avantage de la Russie du tout. Il faut vraiment regarder à qui bénéficie le crime. À date, à chaque fois qu'arrive un événement comme ça, tu l'as mentionné d'emblée, tu as absolument raison, c'est utilisé comme un prétexte pour renforcer considérablement la posture de l'OTAN, un en Pologne et ensuite sur les Pays-Baltes, donc essentiellement sur le flanc Est de l'OTAN. Depuis le début qu'on voulait faire ça. Ça fait des mois, ça fait des années qu'on veut renforcer notre présence sur le flanc Est, mais pourquoi on ne le fait pas? Ben parce qu'on a peur d'escalader la situation avec la Russie. Fait que là, c'est sûr qu'à seconde qu'on a des petits événements comme ça. En plus, tu mets en background l'Ukraine, on est en négociation, puis Poutine, il veut rien savoir d'avoir un appui sur l'Ukraine. C'est sûr que nous autres, notre incentive, c'est comme de prendre l'anglicisme, de front-loader, d'avancer autant de pions que possible sur le bord de la ligne avant qu'on arrive à un accord de paix. Comme ça, ben, ça va être le statu quo, là.
Puis ça a quand même aussi toujours bien donné l'occasion à Donald Trump de dire, ben s'il rentre sur votre territoire, abattez-les. Tu sais, écoute, c'est quelque chose qui avait... il s'était retenu là, jusqu'à maintenant. Mm-hmm. Et tellement qu'il y a des gens qui pensaient que Trump, c'était l'allié de Poutine. Là. Visiblement, là, il y en a qui vont être mêlés là, tantôt. Là. C'est sûr que c'est pas facile à suivre. Mais là, hier...
C'est hilarant.
Il l'a dit, là.
Mais JC, c'est hilarant en disant ça. C'est vraiment hilarant parce que d'une manière, il est en train de caler leur bullshit. Puis là, je veux pas avoir de l'avocat de l'un ou l'autre.
Il a dit,
mais
tirez-les, si tu regardes la scène...
Ben oui. Ben c'est ça, s'ils passent dans ton espace aérien, puis là, à chaque fois, c'est comment? On n'est pas sûr, peut-être, on les a avertis, mais là, les Russes disent que c'est pas vrai, les autres disent que ça l'est, on utilise ça comme un prétexte. Écoute, moi, je comprends la logique, de dire, ben oui, si on passe dans ta frontière, puis t'as fait une identification positive, t'as essayé de les sortir, t'as essayé d'interagir avec eux, ils n'ont pas réagi, ben oui, à bas, c'est comme ça que ça fonctionne. Ouais. Maintenant, écoute, tu calls la bullshit d'un pays un peu comme la Pologne qui dit, hey, on a été attaqué par 19 drones. C'est beau, mon homme, active l'article 5, puis part en guerre, ouais. Si c'est ça qui s'est passé.
Descends-les, puis nous autres, on va fournir des armes à l'OTAN, pas de problème. Et en terminant, puis moi, je suis assez favorable à ton opinion concernant Poutine, es-tu en train de traverser la ligne? Parce que, tu sais, il faut le dire aussi, là, c'est Poutine n'est pas nécessairement équipé pour partir en conflit mondial. Tu sais, je veux dire, je comprends que la Chine... reste l'ombre au-dessus, mais à quel point la Chine viendrait défendre la Russie en cas d'éruption spontanée d'une guerre mondiale, parce que ça serait ça. Ouais. Je suis pas certain. Ouais. Les Chinois sont pas trop stables pour personne. Là.
Ça, c'est l'élément que je trouve fascinant, à la limite, qui est peut-être pas assez discuté là, dans ce fameux tweet de Trump, ce revirement. C'est le constat sur l'armée russe. De dire, hey, une armée moderne aurait été capable de faire ça en dedans de 6 mois. On s'entend, je nuance si je mets un grain de sel, ça vient de la part du président américain qui a quand même supervisé un retrait désastreux de la part de l'Afghanistan.
Et qui a dit que lui, il aurait réglé ça une semaine, puis c'est pas réglé. Oui, c'est ça.
Ben, c'est ça. Mais ce point-là est extrêmement important quand même à soulever parce que ce que ça nous dit, c'est que Trump est en train un peu de, un, arrêter de capoter avec la Russie, là, essayer de minimiser cette menace-là et donc, par conséquence, de dire à tout le monde, là, calmez-vous, là, la Russie ne va pas aller prendre l'Estonie demain, puis elle ne va pas prendre la Pologne, puis elle ne va pas marcher sur Paris. Elle n'est pas capable de prendre le Donbass au bout de ses ressources.
Ouais, ouais.
Fait que l'exemple là-dessus, je comprends ce que Trump est en train de faire. On dirait qu'il est en train d'essayer de se dédouaner effectivement d'une espèce de « gars, il arrivera ce qui arrivera, on va leur donner les armes qu'ils ont besoin, mais arrêtez de traiter ça comme une menace à la sécurité de l'Europe. Ce que ça a exposé, c'est plutôt la faiblesse fondamentale de la Russie puis un peu le tigre de papier qui était l'armée russe.
Toujours le fun, toujours intéressant. Merci beaucoup, Benjamin. J'ai déjà hâte à la semaine prochaine.
Ben, merci beaucoup, JC.
Salut, bye. Benjamin Tremblay, 7 jours sur Terre. Cherchez ça sur YouTube. Il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines de vidéos, de capsules explicatives sur l'actualité, sur des situations historiques, la géopolitique. Bref, très intéressant. Oups, attends un peu, ouvre ton micro.
Oui, juste dire, c'est un texto qu'on a reçu, puis ça m'a fait sourire, fait que je le partage. Je suis dans une salle d'attente d'une clinique privée, dans le coin de Beauport, OK? Il dit, je capote, j'entends JC, puis Benjamin, c'est vraiment cool. Je dis, quelle clinique? Mais c'est parce que c'est quelqu'un qui l'écoute. Fait que c'est drôle, là. C'est très drôle ce qui va se passer actuellement. Il y a quelqu'un qui nous écoute dans ses oreilles, okay, dans une clinique privée de Beauport. Okay. On te salue. Ton voisin entend que tu nous écoutes, puis il capote. Hein? Il y a un patient, il y a quelqu'un qui est dans la, ouais, salle d'attente. Il écoute avec ses oreilles, ouais, avec des écouteurs dans ses oreilles. Le gars qui est à côté, il entend.
Il entend notre show.
Fait qu'il entend le show. Fait que là, il trouve ça malade que le gars soit plugué dans la salle d'attente, dans ses écouteurs, sur le show. Puis le voisin d'à côté, c'est aussi un auditeur. C'est juste qu'il n'y a pas des écouteurs.
Parlez-vous. Sors ton écouteur, fais-y écouter l'extrait.
Prête-y en une.
Comme on fait là, avec Sablon. Ah, gars, prends mon bout. Hein. Ah, c'est cute. On vous salue. Peu importe, vous êtes tous à la table d'opération. On vous salue. Il n'y a pas de problème.
Si vous écoutez Radio X, on vous salue.
On vient.
Willette, en direct.
Radio X.